Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La vindicte populaire est la loi. Le fait de se rendre justice soi-même au lieu de porter plainte devant une instance judiciaire constitue une infraction punissable en droit congolais. Tout litige que la société ne réussit pas à régler doit être porté devant la justice pour que le juge arbitre et tranche. Mais pourquoi arrive-t-on souvent à se faire justice, à se venger, oubliant ainsi les cours et tribunaux? Quel lien avec le discours de haine? Que dit la loi à propos de la vindicte populaire? Comment elle se manifeste? Quelles en sont les conséquences? Quelles en sont les solutions et sanctions prévues par la loi? C'est la problématique qu'aborde le magazine de promotion de vos droits et devoirs afin de savoir comment se comporter en période électorale dans laquelle nous entrons à la suite du lynchage ethnique tragique déploré récemment à Malembankoulou contre les Kasaïens. Je suis Jeff Ngoyi Moulonda. Excellente écoute à tous. La vindicte populaire ou publique est la loi. Pour commencer, nous recevons le professeur de droit et député national Jacques Djoli qui nous explique le rapport entre la vindicte populaire et la loi.
Bonjour monsieur Jeff Ngoyi, bonjour à tous les auditeurs. La question de savoir le rapport entre la vindicte populaire et la loi. Je voudrais vous dire d'abord que ce que vous appelez la vindicte populaire, c'est-à-dire la réaction de la population à un comportement asocial, réaction qui consiste à assurer soi-même la justice, qui peut donc s'apparenter à une justice privée ou populaire, eh bien, la loi, dans un État moderne, considère cet acte comme totalement illégal, je dirais même inconstitutionnel, parce que nul ne peut se faire justice, et la vengeance privée ou la vendetta sont de comportements qui ont existé dans des sociétés archaïques ou dans les sociétés non civilisées et qu'aujourd'hui le monopole de la justice revient à l'État. Mais il était fait que face à un certain nombre de faiblesses étatiques, on arrive, n'est-ce pas, à cette situation où certains citoyens tentent ou essaient de se rendre justice eux-mêmes par des actes de lynchage, de meurtre, des exécutions sommaires, et ces actes-là entrent donc dans les schémas infractionnels très graves et sont réprimés par la justice étatique. Alors, quelles sont les bases juridiques de cette réponse contre la justice populaire ou la justice privée? C'est d'abord la Constitution dans ses dispositions des articles 149 et suivants qui accorde au pouvoir judiciaire le monopole de lutte contre la sociabilité. Et ensuite, les différentes architectures organisées, que ce soit la loi portant organisation et compétences de juridiction, donc ce qu'on appelle la justice pénale. Je disais donc que la Constitution, qui est la mère de loi et qui établit donc l'architecture politique globale et même la politique pénale, accorde le monopole de la justice au pouvoir judiciaire, comme je l'ai dit. Et à cet effet, il y a tout un enchevêtrement de structures. Nous avons d'abord la justice pénale de la civile, qui, n'est-ce pas, prévoit une articulation comme réponse à l'insociable sociabilité. Mais il y a aussi la justice militaire qui vient donc pour réprimer ces infractions lorsque la nocivité ou la violence atteint des dimensions armées. Et au-delà de cette architecture formelle, sur le plan de fond, il faut dire que même le droit international pénal n'est pas en reste, parce que ces atteintes touchent la dignité humaine, la vie humaine. Donc les différents instruments internationaux, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme qui parle de la dignité, ou les réponses pénales internationales, à savoir la justice pénale internationale, organise, n'est-ce pas, de réponses là-dessus. Et surtout, le droit pénal congolais a fortement évolué avec l'extension des compétences de cour d'appel en matière de crimes graves. Parce qu'ici, il faudra se dire que au-delà de attentats ou autres meurtres et assassinats, lorsque ça s'est fait en groupe, on atteint pratiquement la dimension des crimes contre l'humanité et d'autres crimes tels que le génocide. Parce que ici, vous allez voir qu'il y a de meurtres, de volontés d'extermination, des viols massifs, l'esclavage sexuel qui peuvent amener à des grossesses forcées ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité incomparable. Mais aussi cette volonté de persécuter tout groupe ou toute collectivité identifiable, inspirée par des motifs même d'ordre politique. Parce que lorsque nous observons tous ces ce que vous appelez vindictes populaires, vous trouvez toujours de motivations tribales, mais il y a aussi des motivations politiques. Donc la réponse étatique devait en principe être efficace et surtout sans pitié vis-à-vis de ces actes de vindictes ou de justice privée ou de justice populaire.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi
Professeur, comment se manifeste cette vindicte populaire?
Comment cette vindicte populaire se manifeste? Eh bien, ça me manifeste d'abord par des actes de propos haineux, propos discriminatoires, et ça évolue vers des attaques généralisées, de lynchage, de meurtre, de passage à tabac, comme vous avez pu l'assister, et qui peuvent aboutir à la création de groupes armés, les uns pour se protéger et d'autres pour attaquer, et finalement on arrive à une situation de désordre sociétal comme nous en avons aujourd'hui la preuve à l'Est, et qui risque de se généraliser, notamment quand on voit des groupes tels que les Mobondo et les autres qui s'attaquent au Teke ou vice-versa au Yaka. Et c'est que c'est remarqué par exemple dans la province orientale entre les Lingola et les Mbole, qui s'étend avec d'autres groupes tels que les Kumu et les autres, mais aussi si c'est qu'on voit au Katanga entre les Kasaï et les Kasaïens ou les Luba et les autochtones. Il faut donc être très 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 prudent sur cette question et trouver la réponse pénale, sociétale, globale d'urgence, sous peine, n'est-ce pas, d'arriver à une sorte de déliquescence de l'État.
À quelles conséquences cela peut nous amener?
Mais les conséquences de ces actes sont graves, parce que mettent en péril l'existence même de la communauté nationale comme lieu et lien de vivre ensemble. Et ça remet en cause même la consistance d'un État, parce que l'État, c'est d'abord le monopole de la violence légitime. L'État, la souveraineté de l'État, c'est notamment par le monopole de la justice. Et lorsque l'État est dépassé ou se laisse dépasser par cette justice privée, très souvent politique, on tombe dans un état d'impunité, et lorsqu'on est dans l'impunité, donc on entre dans l'anarchie, dans la jungle, donc on s'éloigne de ce qu'on appelle un état de droit.
En quête des solutions à cette problématique, comment peut-on éviter que cela nous arrive?
Mais la solution globale, c'est ce qu'on appelle assez couramment la restauration de l'autorité de l'État. Cette restauration de l'autorité de l'État passe par, n'est-ce pas, la réarticulation, le redéploiement de services publics, une administration neutre, efficace, moins tribalisée, du sommet à la base. Lorsque nous voyons l'architecture de notre pays, on a l'impression que l'exercice du pouvoir s'arrête à un certain niveau. Et lorsqu'on entre, par exemple, pour nous les élus locaux, au niveau de secteurs, voire même de territoires, on remarque que la police n'est pas très bien déployée ou n'a pas de moyens conséquents pour assurer. Il y a même des endroits où il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de troupes armées quelque part. Donc, d'où ces actes de justice privée prennent l'allure des cycles permanents, des cycles de répression, subversion, parce que il faut donc restaurer l'autorité de l'État, il faut la présence de la police, il faut une réponse judiciaire. Lorsque vous prenez les cas de Malembankoulou, il y a eu soi-disant attaque de motards katangais par soi-disant de bandits kassaïens, mais lorsqu'il y a eu ces cas de meurtre, on est allé voir l'administrateur du territoire et la justice, il n'y a pas eu de réponse, et à partir de ce moment-là, ça a dégénéré. Donc l'État doit être outillé, les services de police et les...
Dos a la referencia, dos a
La vindicte populaire est la loi. Je vous invite maintenant à suivre les enseignements et les leçons à tirer avec l'avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga.
La vindicte populaire traduit la réaction d'une population contre la commission d'une infraction. Il s'agit d'une réaction inorganisée par laquelle la population sanctionne ou pense punir l'auteur présumé d'une infraction. Ce phénomène est le résultat de l'absence d'une justice organisée. Il peut également être la réaction ou la réponse à la méfiance d'une population face à une justice organisée. Ce phénomène peut également traduire l'état psychologique d'une population qui pense que même si l'auteur présumé de l'infraction serait arrêté, traduit en justice et jugé, la sanction que la justice organisée infligera à l'auteur présumé de l'infraction ne serait pas à la hauteur de son forfait. Donc c'est un peu ça en termes ramassés, ce qu'on peut entendre par la vindicte populaire.
Que peuvent être les causes de cette vindicte?
Comme je venais de le signaler dans la définition, donc la vindicte populaire peut avoir pour cause soit l'absence d'une justice organisée, soit la méfiance de la population face à la justice organisée. Elle peut être aussi le résultat de l'éloignement du lieu de l'infraction par rapport aux institutions chargées de rendre la justice. Et donc, si nous devons prendre le cas de ce qui se passe à Malemankoul, dont nous n'avons pas encore tous les contours, l'une des causes énumérées peut être l'explication de ce qui s'est passé à Malemankoul. Et donc, il est important pour les animateurs de la justice et ceux qui ont en charge la gestion de la population de prévenir ce genre de réaction populaire parce que nul n'est censé se rendre justice à soi-même. Et des fois, lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas retrouvé, l'on peut facilement tomber sur ses proches qui n'ont rien à voir avec
les faits infractionnels déplorés. Comme pour dire, selon les dictons, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Si c'est pas toi, c'est l'un de tes frères ou sœurs. Donc, il revient à ceux qui ont la chair de la population de rendre justice, de prendre les mesures adéquates pour faire sentir l'existence de la justice. C'est lorsque la population se rend compte que la justice n'existe pas ou qu'elle est mal rendue ou qu'elle est rendue avec retard que les gens se permettent de recourir à la vindicte populaire.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
Place à présent à la corrélation entre le discours de haine et la vindicte populaire. Comment la haine peut conduire à la violence? Que faire pour l'éviter? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec le professeur Boniface Kabisa, criminaliste.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes très chers compatriotes, merci à la Radio Okapi de m'accorder l'audience pour la première fois après que je sois injustement suspendu des antennes parce que les puissances étrangères qui sont contre la République ont demandé cette sanction-là. Verdict populaire, c'est le fait que une personne soit soumise au mépris public sans justification et que on demande à la foule de le juger. Vous connaissez l'histoire d'un grand innocent qui a été jugé, condamné et crucifié par la foule. Je parle de Jésus-Christ que nous prions depuis 2000 ans. C'est quelque chose de très dangereux et de très grave d'avoir le verdict populaire parce que la foule a toujours été plus bête que les personnes qui la composent. Qu'est-ce que individuellement ou collectivement nous pensons au verdict populaire? Tout vient de l'organisation et du fonctionnement de l'État et surtout de la justice. Ces histoires se passent très souvent dans des sociétés où la justice est précaire, comme dans notre pays. Comment la justice est précaire? Les gens ne savent pas exactement ce que les cours et tribunaux font et sur base de quels facteurs qu'ils donnent raison à l'un ou donnent tort à l'autre. Pour trois raisons, et je vais plus vite dire ça. La première raison, c'est que nous parlons en français et que tout le monde n'est pas élocuteur en français. La deuxième raison, c'est que les systèmes judiciaires, comme je l'ai dit et dit et redit, c'est un système mis en place par la colonisation pour les besoins de la colonisation. Notre système judiciaire n'a jamais été réformé par rapport aux besoins de notre pays et de notre population. Et donc, la palabre qui était le système de régulation de cohésion sociale a disparu. Aujourd'hui, nous recourons tous aux cours et tribunaux qui disent des choses que les profanes ignorent complètement. Et de là, à franchir les pas vers le verdict populaire, ce n'est qu'une question de seconde. D'autres choses, la corruption la plus grave, je l'ai dit encore et redit, c'est la corruption judiciaire. Vous savez, lorsque l'homme a donné tous les pouvoirs naturels qu'il avait à l'État, il a gardé deux pouvoirs pour lui. Le premier, c'est le pouvoir à la vie. Le deuxième, c'est le pouvoir à la liberté. Et lorsque le médecin ou le magistrat porte atteinte à ces pouvoirs-là, il y a une sorte de révolte qui arrive chez l'homme, l'individu, et plusieurs individus peuvent se transformer en torchons et donner le verdict populaire. Et je dis tout ça pourquoi? Parce qu'on s'approche de la période électorale où les gens vont chacun demander d'être élu. Mais ne cherchez pas à être élu contre quelqu'un. Il faut être élu pour soi-même, pour le bien que vous avez fait à la population, pour le programme que vous présentez à la population, pour votre, ce que nous appelons le prérequis social. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à demander le mandat? Moi, je vois des gens de tout genre, tant mieux, qui demandent de devenir député. Pour aller faire quoi? Il y en a qui ignorent qu'un député, c'est quelqu'un qui va faire les lois. Vous partez, si vous demandez à chacun de ces candidats, quelle est la loi qui vous amène à chercher devenir député? Très peu vont vous dire telle loi et je voudrais faire telle disposition. Ils vont parce que il y a des jeeps, il y a des 21 000 dollars, mais ça ne va pas continuer comme ça. Donc nous devons éviter de chercher le pouvoir pour nos biens personnels.
Quel lien avec le discours de haine?
La dernière chose que je peux dire, c'est un conseil, qu'il ne faut pas faire les discours de haine. La haine, c'est un stimulus, un facteur qui va enclencher une révolte dans un individu et plusieurs individus peuvent conduire au massacre tel que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux. Et vous, vous ignorez que c'est le discours que vous avez fait qui est à l'origine de ce massacre-là. Vous allez dire, je n'ai jamais ordonné le massacre. Mais dans chacun de nos discours, il y a ce qu'on appelle les non-entendus. Chaque personne, selon son niveau, selon sa classe sociale, reçoit le discours de sa façon et l'interprète de sa manière. D'où, il faut faire très attention. Il n'y a rien qui est plus fragile que la cohésion sociale. Il n'y a rien qui est très fragile que l'unité et l'intégrité de notre territoire, qui est déjà menacée. Il faut enfin voir qui est derrière qui, parce que il y a des personnes qui viennent faire des troubles faits parce que elles ont été mandatées par ceux qui veulent l'éclatement du Congo.
La vindicte populaire au public est la loi. Maître Gloire Manessa, président de l'Action citoyenne contre les discours de haine, emboîte le pas en sensibilisant la population contre la violence.
FACLDH n'a pas été créé seulement pour pendant ces moments où le pays est en danger. Nous existons depuis longtemps. Nous existons légalement depuis 2019. Nous avons opté pour la lutte contre les discours de haine parce que à ces moments, vous venez de le dire, même dans notre pays, la République démocratique du Congo, les discours de haine, les discriminations, l'intolérance, l'exclusion communautaire et tout ce qui va avec pose un problème sérieux pour les droits de l'homme dans le pays. Partout, dans tous les discours de la société, on assiste à des propos incendiaires qui fragilisent même le climat de paix dans le pays. Dans les milieux politiques, le débat est toujours orienté vers le tribalisme, vers l'exclusion communautaire, des propos comme talibans, pakistanais, des pères et des mères, ces propos-là pour stigmatiser, déshumaniser une certaine catégorie de la population, puis lui les sapranciter. Aujourd'hui, nous ne savons pas contrôler avec l'avènement des réseaux sociaux partout, même les enfants dans les téléphones, ils sont à l'école primaire, à tous les niveaux, ils sont directement en contact avec des propos discriminatoires, avec des images qui caricaturent certains patriotes comme étant des dangers, des infiltrés, des dangers pour la République, à tel point que ça attise une haine qui fragilise le pays au point de saper la cohésion sociale et la paix. Alors nous nous sommes dit qu'il est temps de s'élever. Le pays est en train de brûler, les discours de haine sont un terrain, un lit pour le génocide, pour les violences de tous autres, pour la violation des droits de l'homme. Les jeunes, nous sommes dit, on s'élève pour combattre les discours de haine en République démocratique du Congo. C'est ça, les mobiles de l'action citoyenne de lutte contre les discours de haine en RDC. Tant que les discours de haine vont exister, tant que les frissons, les fractions sociales vont continuer à être nourries en République démocratique du Congo, nous sensibiliserons, nous interpellerons les autorités et nous dénoncerons toujours les actes qui font des discriminations et consorts. Et il y a plusieurs séries d'activités que nous sommes en train de mener et que peut-être nous allons encore solliciter l'accompagnement des Nations Unies à travers la radio Capi afin que notre message soit entendu. La haine, ce n'est pas seulement par les discours, ce n'est pas seulement par le message qui passe dans les réseaux sociaux qu'on sort, mais elle est aussi nourrie par la misère qu'il y a, par les problèmes. Parce que quand quelqu'un est dans son avenir, dans son quartier, dans son milieu de vie, il n'a pas un pain, il n'a pas de quoi mettre sous la dent. Il a envie, il voit l'autre, son voisin en train de manger calmement, ou l'enfant de l'autre est allé facilement à l'école, mais lui n'a pas ses enfants ou lui-même n'a pas accès à l'école. Ça attise aussi à la haine.
Lorsque la population est marginalisée, ce qui ressort de cette population, c'est la haine en fait. La haine vis-à-vis des autorités, la haine vis-à-vis du voisin, la haine vis-à-vis de ses amis. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait sensibiliser la population, d'éviter le discours de haine, mais aussi de travailler pour leur milieu. Sensibiliser les autorités pour venir avec des solutions.
Est-ce que vous vivez moins de faits palpables que le discours de haine ici dans votre commune?
Oui, le discours de haine, ça vient souvent dans les réseaux sociaux. Ça peut inciter.
Les affaires civiles de la MONUSCO participent depuis l'année dernière à travers les communes de Kinshasa avec l'action citoyenne à la campagne contre les discours de haine. Elle nous en explique les conséquences et les solutions préconisées.
Il faut privilégier le dialogue. Il faut privilégier le dialogue, la tolérance, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et briser tout ce qui est des discours de haine tribale et avoir la tolérance et l'amour du prochain et se mettre ensemble pour construire notre pays.
Que peut-être de l'apport des affaires civiles?
Sensibiliser plutôt le jeune à se mobiliser, à ne pas se laisser faire aux manipulations. Parce que quand il y a des manipulations, souvent ça se solde dans des manifestations. Et qui dit manifestation, souvent il dérape pour détruire des biens publics que nous sommes censés de protéger. Donc nous, les affaires civiles, nous sommes là pour sensibiliser la population à une prise de conscience pour ne pas se laisser faire à des discours de haine, à la manipulation, mais par contre à favoriser la tolérance pour une cohésion sociale et une cohabitation pacifique.
Kabi pale na ya ya bo mwana mobali baboya kata ya mama dika endombo na ya na lola soketo amu ugugu ya kato
bolingo ya bana mama makambo mingye boko ya bate nimi samba laki kuekisa ole sote mote mama bonio yo fumi ya jana kaya kote mama.
Malaya,
Recevons le magistrat émérite Nicolas Kedishiba sur la haine, un des vecteurs de la violence qui conduit à la vindicte populaire.
Le discours de haine, c'est le propos qu'on tient en public ou en privé, mais des propos qui ont tendance à stigmatiser certaines personnes compte tenu de leurs origines, de leur morphologie, hein, comme dans les circonstances actuelles. Avec la guerre de l'Est, on voit quelqu'un qui a une morphologie qui ressemble à celle des Rwandais. Il est stigmatisé, il est vite, on le traite d'ennemi. Donc c'est ce genre.
Alors qu'il y a des Congolais qui ressemblent aux Rwandais.
Effectivement, dans l'Est, il y a des Congolais qui ressemblent aux Rwandais.
Stigmatiser quelqu'un par
effectivement,
sa morphologie.
Moi j'ai toujours dit que le terme de Tutsi Congolais ou Hutu Congolais, je crois que c'est les termes qui doivent disparaître de notre langage. Quand on est Congolais, on a son origine, mais on ne doit pas toujours utiliser des termes qui rattachent nos compatriotes à ceux d'un autre pays. On n'a pas des rwandophones chez nous, mais nous avons des Congolais qui ont des souches Tutsi ou Hutu, mais qui sont Congolais depuis le 30 juin 1960. Et il y a des discours qu'on tient, par exemple, couramment dans notre pays, vous entendez les gens dire, mais celui-là, il doit être Moulouba, Talé Nyamanaye Moulouba. Ce sont ces mots-là, ce sont ces traitements-là, ces propos-là qu'on cherche à bannir pour consolider l'unité nationale. Et ce genre de propos qui stigmatise quelqu'un à partir de sa race, de son origine tribale,
de sa
provinciale, de sa morphologie, ce discours-là, c'est ce discours qui constitue des propos, des discours tribales.
Maintenant, que dit la loi à propos de sa répression? Comment un tel discours est réprimé? C'est d'abord une infraction?
Oui, c'est une infraction parce que quand vous voyez l'ordonnance loi numéro 66/342 du 7 juin 1966, cette ordonnance prévoit ce genre d'actes et prévoit aussi la peine d'au moins 2 ans avec amende. Donc, cette ordonnance condamne ce genre de propos, condamne les comportements, les émissions par exemple, l'attitude de certaines personnes. Vous arrivez par exemple au lieu de recrutement, on vous regarde, on voit votre morphologie, on entend votre nom, on tient compte de votre appartenance tribale, on refuse de vous prendre. L'ordonnance condamne ce genre de comportement parce que nous voulons être un. Et vous savez, le maréchal Mobutu, de triste ou d'heureuse mémoire, selon la pensée des gens, il disait Tata bo moko, mama bo moko,
ekolo
moko, tout ça, c'était pour faire voir que, quelle que soit votre tribu, vous êtes congolais. Et nous devons nous attacher à ça pour faire la fierté de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, depuis que le président a prononcé son discours sur l'appel à la mobilisation, on sent l'élan patriotique. Et c'est ça ce que la loi veut, que nous soyons tous, que nous puissions défendre les drapeaux nationaux, que nous puissions défendre les territoires nationaux, notre souveraineté, l'intangibilité de nos frontières telles qu'héritées de la colonisation. Voilà ce que la loi veut, et cela aussi est conforté par la Constitution dans ses articles 10 et 30. Et on dit même que on ne peut pas être chassé de là où on s'est installé à cause de son appartenance ou de ses idées politiques ou de sa religion. On ne peut pas. Mais celui qui s'adonne à de tels comportements, parce que tel est musulman, on le supporte pas. Tel est chrétien, on le supporte pas. Tel est animiste, on le supporte pas. Telle est de telle province, on ne le supporte pas. Mais nous voulons arriver à une situation telle que les Congolais se marient entre eux sans qu'il y ait de barrière. Que les Congolais, quand ils se retrouvent même à l'étranger, qu'ils s'acceptent et qu'ils se protègent les uns les autres. Voilà ce que la loi et ce que la Constitution prônent.
Mais pourquoi le taux de la peine qu'on encourt reste minime, 2 ans au moins?
Bon, vous savez, la loi n'est pas très claire. On dit au moins. C'est qu'on peut condamner à plus. Mais tout ce que nous voulons, tout ce que nous faisons comme proposition, c'est de fixer une peine assez élevée, une peine qu'on peut infliger sans complaisance pour décourager ceux qui ont tendance à porter atteinte à l'unité nationale. Et nous voulons même que, non seulement qu'on applique la procédure de flagrance, mais qu'il y ait une procédure spéciale pour ce genre d'infraction, et une procédure qui peut se limiter peut-être dans un mois, dans l'espace d'un mois, le ministère public a terminé son enquête, et le juge a prononcé la peine pour décourager ce genre de comportement. Parce qu'on ne peut pas accepter d'être dans un pays où on ne s'aime pas. Vous savez, je vais vous donner un cas. Nous étions quelque part, je me rends compte que dans les organismes internationaux, il y avait beaucoup plus d'Ouest-Africains que de Congolais. Alors j'ai demandé à notre vieux Ramazan Ibaya, je lui dis, mais vieux, pourquoi nous les Congolais, on ne se retrouve pas dedans? Et il dit, mais c'est parce que nous avons été tellement tribalistes à l'époque de Mobutu, que quand la communauté internationale ou tel organisme avait besoin d'un expert, on s'est demandé d'où il vient et on s'empêchait soi-même, donc nos autorités empêchaient les Congolais ou les Aïrois à l'époque d'accéder à des fonctions internationales. Et c'est ainsi que le tribalisme nous a joué un mauvais tour. Aujourd'hui, vous pouvez trouver les Rwandais dans les organismes internationaux, et quand vous allez vous plaindre, ou les Ougandais et consorts, quand vous allez vous plaindre, vous tombez sur celui-là. Mais vous n'avez personne qui puisse vous défendre. Et le tribalisme nous cause du tort et nous ramène plusieurs années en arrière. Au lieu qu'il y ait aussi des Congolais, et nous-mêmes nous combattons. Même aujourd'hui, vous voyez le recrutement de magistrats, comment ça s'est passé? Il y a des gens qui ont bien travaillé, qui ont très bien travaillé, mais qui ne se retrouvent pas. Donc c'est toujours la discrimination qui est en train encore de nous jouer des sales tours dans notre pays.
Et comment y mettre fin?
Comment y mettre fin? Nous, Congolais, nous devons devenir sérieux avec nous-mêmes. Nous devons respecter nos lois. Nous devons respecter notre constitution. Nous devons suivre et respecter la vision de notre chef de l'État. Alors en ce moment-là, les choses vont changer. On ne va plus travailler parce qu'on est frère de tel, mais on va travailler parce qu'on mérite.
Enfin, pour conclure ces numéros...
Maître Gloire Manessa, on revient encore à vous. Les discours de haine constituent tout propos, tout langage ou tout discours qui stigmatise, qui cible une personne par rapport à sa race, par rapport à sa tribu, par rapport à sa couleur de peau, à sa religion, par rapport à son faciès. Tout ça, ça constitue les discours de haine, ça constitue les discriminations. Ce problème de faciès, de guerre de faciès est tellement récurrent ces jours ici en République démocratique, à Kinshasa également, même ici à Kinshasa, parce que ce n'est pas seulement à Bombé ou à Matete. Dans les réseaux sociaux partout, on dit tel est rwandais par rapport à sa faciès. On voit quelqu'un, on dit sa physionomie, il n'est pas congolais, et on l'identifie directement à tel ou tel autre pays, parce qu'il est de telle tribu ou parce qu'il est de telle autre faciès. Donc les populations kinoises de façon générale, les discours de haine, ça je les confirme, il est vraiment présent dans toute la République démocratique du Congo, principalement dans la partie est du pays, mais aussi ici à Kinshasa. Mais il y a des jeunes qui identifient les gens à partir de leur maison, dit qu'ils habitent tel autre quartier, prenez des marchés, allez les chercher, les machettes plutôt, allez les chercher, exterminez-les. On a applaudi ça passait dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est ici a vu ça, peut-être il a commenté. A dit ça, par exemple, avec Tolingi Mboka, en commentaire comme ça. Quand il commente, effectivement, il est en train d'encourager la haine, peut-être sans le savoir. C'est pourquoi nous venons leur dire que tel comportement, quand vous voyez quelqu'un vous dire que tel est infiltré, sa maison à tel endroit, allez le voir, allez faire de la violence, c'est un danger, c'est un discours de haine. Il faut savoir refuser, il faut savoir ne pas adhérer à ces campagnes parce qu'ils sont partout. Partout où vous êtes, ça peut vous atteindre. Si pas par bouche à oreille, par le média, par les réseaux sociaux, ça peut vous atteindre. Donc
il faut avoir des retenues.
Et effectivement, il faut avoir des retenues. Et c'est ça l'essence de notre combat.
La vindicte populaire est la loi. Nous venons de vous en parler dans Droit et Citoyenneté. Le magazine de promotion de vos droits et devoirs est donc maintenant terminé. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.